VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 18h à Bujumbura, bienvenue à notre bulletin de nouvelles. En Angola, quelques 9 300 000 électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections générales, dont l'enjeu principal est le choix du successeur du président José Eduardo dos Santos après un règne de 38 ans. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Au pouvoir depuis 1975, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola doit conserver, sauf coup de théâtre, sa majorité absolue au Parlement et installer l'ex-ministre de la Défense, João Lourenço, au fauteuil présidentiel pour remplacer Eduardo dos Santos, qui a décidé de prendre sa retraite. Dès les premières heures, les électeurs se sont pressés dans les bureaux de vote pour ce scrutin qui a pris fin à 17h GMT. Monsieur dos Santos, bientôt 75 ans, a voté en début de matinée dans une école du centre de la capitale. Très confiant, son très probable successeur l'a imité une heure après dans un autre bureau de Luanda. « Je suis serein, je vais rester calmement chez moi en attendant que mes collègues du parti m'informent des résultats », a déclaré João Lourenço. Isaias Samakuva, le chef de l'UNITA, le principal parti d'opposition, a lui aussi voté avant d'appeler les électeurs à voter en conscience pour la démocratie.
Le Tchad a fermé l'ambassade du Qatar à N'Djamena et a donné 10 jours à son personnel pour quitter le pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
N'Djamena reproche à Doha son implication dans les tentatives de déstabilisation du Tchad à partir de la Libye. Les autorités tchadiennes disent agir ainsi pour sauvegarder la paix et la stabilité dans la région. Un communiqué indique que l'ambassadeur et le personnel diplomatique doivent quitter le territoire dans un délai maximum de 10 jours. Le Tchad a rappelé son ambassadeur au Qatar en juin, tout comme le Sénégal et la Mauritanie. Bien avant, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Yémen et l'Égypte ont rompu leurs relations avec Doha, l'accusant de soutenir le terrorisme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Cameroun, 4 membres d'un comité de vigilance a été tués mardi soir lors d'un attentat suicide dans la localité d'Amchide, frontalière du Nigeria, dans l'extrême nord du pays. Composé de civils qui livrent des renseignements aux forces gouvernementales pour lutter contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram, les comités camerounais de vigilance sont particulièrement ciblés par les djihadistes. Et puis au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annulé ce mercredi la tenue du Conseil hebdomadaire des ministres qui devait être son premier rendez-vous avec le gouvernement depuis son retour au pays après un congé maladie de plus de 3 mois. Le président, qui a repris officiellement ses fonctions lundi, a travaillé depuis la maison, selon ses proches. Actualité américaine maintenant, le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale, organisme dépendant du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, a émis ce mercredi un premier avertissement formel à propos de la situation aux États-Unis. Une mesure utilisée pour signaler l'émergence d'un possible conflit intercommunautaire dans un pays. Le comité a justifié le recours à ce premier avertissement à Washington en citant les récents troubles à Charlottesville, en Virginie, où une femme a été tuée après qu'un suprémaciste blanc a précipité son véhicule sur un groupe de manifestants antiracistes. L'appel de l'organisme onusien intervient au lendemain de la visite du président américain Donald Trump à Phoenix, dans l'Arizona, où le chef de l'exécutif a défendu hier soir sa réaction aux incidents de Charlottesville. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Monsieur Trump a commencé son intervention par une répétition de ses précédentes déclarations critiquant les néo-nazis et les racistes du Ku Klux Klan après les violences meurtrières du 12 août dernier à Charlottesville en Virginie. Mais le président a omis les mots les plus controversés qu'il avait utilisés pour envoyer dos à dos tenants de la suprématie blanche et contre-manifestants. La présence de Donald Trump à Phoenix a attiré des dizaines de milliers de ses partisans et de protestataires au centre-ville et les forces de sécurité se sont évertuées à éviter tout incident entre les deux côtés. La police a cependant usé de gaz lacrymogène après le discours contre des manifestants anti-Trump.
Et pour terminer, en Afghanistan, un kamikaze a tué 5 civils et en a blessé 25 autres dans un attentat dans le sud du pays ce mercredi. Cet attentat revendiqué par les talibans est le premier de grande envergure depuis l'annonce par le président des États-Unis Donald Trump qu'il ouvrait la voie au déploiement de renforts américains dans le pays. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Jacques Aristide pour la Minute Éco sur VOA. Abidjan accueille cette semaine un atelier de formation sur le commerce international des services, une initiative de la CDAO et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Pour les organisateurs, les services peuvent aider à combattre la pauvreté sur le continent africain. Ils comprennent l'approvisionnement en eau potable, l'énergie, l'éducation, le transport et les télécommunications. L'atelier a pour but d'aider à améliorer les politiques publiques en matière de commerce international des services. Le Niger a décroché le prix international de la politique d'avenir octroyé par le World Future Council. Le prix est décerné aux meilleures politiques pour améliorer les conditions de vie des populations et des générations futures. Le Niger a été récompensé pour son initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette politique vise à vaincre la faim d'ici 2021. Pour le World Future Council, le pays a vu une augmentation de la culture irriguée et la récupération de vastes parties des terres arables. En Libye, la production de pétrole est de nouveau suspendue sur le champ d'Al-Sharara quelques heures après sa réouverture ce mardi. Des protestataires ont encore une fois fermé le léoduc qui conduit le pétrole jusqu'au port et à la raffinerie de Zawiya. Aucun groupe n'a revendiqué pour l'heure ce nouveau blocage.
Tell me, Quayeri, or tell me, Soleil, you got the book.